Bonjour mes frères et mes sœurs. Une fois encore, je vous pose les questions que je vous ai posées lors de mes deux derniers sermons. Qui est le Christ? Est-il Dieu? Est-il homme? Est-il une création? Est-il le Fils de Dieu? Le Dieu de l'Ancien Testament est-il différent du Dieu du Nouveau Testament? Y a-t-il deux dieux? Autrement dit, y a-t-il un Dieu qui était patient, qui était bon pendant le Nouveau Testament? Et y a-t-il un Dieu qui était méchant, cruel dans l'Ancien Testament? Ce sont des questions qui embarrassent beaucoup de chrétiens, car beaucoup de chrétiens pensent que, en principe, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu qui avait imposé des commandements difficiles à observer, alors que le Dieu du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Christ, est un Dieu doux, compatissant. Il est venu donner sa vie pour nous tous, et que, ce faisant, il nous pardonne les péchés, même si nous ne nous en repentons pas. Est-ce vraiment le cas? Le Dieu de l'Ancien Testament était différent du Dieu du Nouveau Testament. Le Christ existait-il lors de l'Ancien Testament? Était-il le Dieu lors de l'Ancien Testament? La réponse est oui, absolument oui. Le Christ est notre Créateur, notre Sauveur, notre Berger. Le Christ est notre Dieu. Elohim, en hébreu, signifie Dieu, et qui a un sens de pluralité. Au commencement, Dieu, c'est-à-dire Elohim, c'est-à-dire Dieu le Père et le Fils, ont créé les cieux et la terre. Au commencement, Elohim a donné la vie à nous tous. Autrement dit, Dieu le Père fait toutes choses par le Christ, en Christ, pour nous autres. Autrement dit, je répète, il faut que nous puissions comprendre l'importance du Christ dans notre vie, parce qu'il est venu non pas sauver la plupart des gens qui se repentent de leurs péchés, j'espère, de nos péchés, mais en même temps, il est venu pour que nous puissions un jour avoir la vie éternelle. Sans le Christ, il n'y aurait pas de commencement. Sans le Christ, il n'y aurait pas de but de la vie. Je répète, et nous qui sommes membres de l'Église, nous savons cela, il n'y a pas de Dieu différent. Dieu le Père et le Christ, tous deux sont Dieu. Le Christ et Dieu le Père ont le même esprit. Qui les unit du reste, et ça c'est le Saint-Esprit. Une fois que vous comprenez ces simples vérités, nous autres en tant que membres de l'Église, nous devons les comprendre. Vous devez savoir que le Dieu de l'Ancien Testament était le Christ. Que le Dieu du Nouveau Testament, qui est le Christ, est venu pour sauver l'humanité, pour donner sa vie, afin que par sa vie suprême, nos péchés puissent être pardonnés. Je vous ai expliqué tout cela dans mes deux derniers sermons. J'en ai parlé, j'espère, assez clairement, et j'ai aussi mis l'accent sur le sacrifice suprême, l'importance du sacrifice. Car voyez-vous, moi je ne peux pas mourir pour vos péchés. Et vous ne pouvez pas mourir pour mes péchés. Personne, aucun être humain ne peut mourir pour les péchés de quelqu'un d'autre. Si bon, soyons-nous, ça n'a pas d'importance. Mais le Christ peut mourir pour nos péchés parce qu'il est le Créateur, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et celui qui nous donne la vie, et celui qui nous la reprend. Commencez-vous à comprendre, le Christ est notre Créateur, le Christ est notre Dieu, le Christ est celui par qui nous avons accès à la vie éternelle. Je répète, nous avons vu tout cela lors de mes deux derniers sermons. Mais il y a plus. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a une différence, si vous voulez dire, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais ils sont unis par le même esprit, les deux sont Dieu. Le Créateur suprême qui nous a créés, c'est-à-dire le Christ, a donné sa vie afin que nous puissions, nous, avoir accès à la vie éternelle. J'ai aussi prouvé par la Bible du reste, j'espère que j'ai pu réussir, que le Christ a plusieurs titres. Et je vous rappelle ces titres, enfin, vous n'avez qu'à les lire dans la Bible si vous voulez, mais nous savons par exemple que le Christ est notre Créateur, le Christ est le rocher, celui même, ce rocher même qui a guidé nos ancêtres hors de l'Égypte. C'était là le rocher qui guidait. C'était là les nuées, le Dieu qui apparaissait pour guider nos ancêtres hors de l'Égypte. Autrement dit, le Christ est notre guide. La Bible l'appelle encore le Christ la pierre angulaire. Vous savez, je vous ai expliqué, je répète, sans une pierre angulaire, sans la pierre angulaire, si vous voulez, on ne peut pas construire une maison. C'est le fondement même. Donc, sans le Christ, sans la pierre angulaire, nous ne pouvons pas vraiment avoir un appui, une force, un fondement. Ce sont des vérités simples, mes frères et mes sœurs, mais il faut que nous qui sommes membres de l'Église, nous puissions vivre de ces vérités, que nous puissions vraiment y réfléchir, que nous puissions vraiment en être convaincus et aller de l'avant avec force, avec courage. Certes, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des difficultés, nous avons parfois des occasions où nous faisons face à une tragédie. D'accord. Mais toutes ces choses ne doivent pas nous décourager parce que le Christ est la pierre angulaire, est le fondement de notre foi, est le fondement de notre vie même, est le fondement de nos espoirs. Voyez-vous, le Christ a plusieurs titres dans la Bible. Il a plusieurs noms, si vous voulez. Dans le Nouveau Testament, le Christ se présente, et je vous ai dit, je n'ai pas besoin de répéter maintenant ici, sept titres. Par exemple, il a dit qu'il est le berger, le bon berger. Il a dit qu'il est aussi la porte par laquelle nous devons entrer pour arriver au résultat. Il a dit qu'il est la lumière. Sans lumière, nous sommes dans les ténèbres, et si nous sommes dans les ténèbres, nous perdons notre direction. Ayez ceci en tête. Le Christ est le chemin. Le Christ est la porte. Le Christ est la lumière. Le Christ est notre berger, le bon berger. Et le bon berger conduit les brebis dans la bonne direction. Regardez autour de vous, regardez le christianisme aujourd'hui. Sont-ils vraiment les brebis? Si c'est le cas, pourquoi les brebis ne suivent pas le Christ? Quels sont les chrétiens aujourd'hui qui obéissent vraiment au commandement de Dieu, aux 10 commandements et aux autres commandements? Si nous, ou bien les chrétiens de ce monde, si vous voulez, ont le Christ en tant que berger, ils devraient suivre le Christ et suivre toujours dans toutes les choses, dans tout ce qu'ils font. En réalité, si vous voulez suivre le berger, c'est-à-dire le Christ, vous devez marcher dans la voie de l'obéissance. Obéissance à tous les commandements de Dieu, et non pas seulement aux 10 commandements. Obéissance à tous les 10 commandements, y compris le sabbat, qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, n'a pas de sens. L'obéissance même dans notre façon de parler, de raisonner, de prier, et même de nous comporter les uns avec les autres. Tout ça, voyez-vous, ça nous rend chrétiens. Tout ça, ça nous rend des brebis qui suivent le berger, le bon berger. Je vous ai parlé de tout cela. Ce n'est pas une répétition que je fais juste pour remplir mes sujets, pas du tout. Je dis cela parce qu'une fois que vous avez compris cette vérité élémentaire, une fois que vous avez cette base, alors nous pouvons savoir ce que c'est que le bon berger, ce que c'est que la porte, ce que c'est que le chemin, ce que c'est que la vérité, ce que c'est que la lumière. Car tout cela, le Christ est. Comprenez-vous? Je vous ai dit, il y a sept appellations. Mais maintenant, je vais prendre les trois derniers. Le Christ a dit ceci. C'est intéressant parce que, voyez-vous, il a parlé de lui-même. Il a expliqué à ses apôtres, surtout à l'apôtre Jean, ce qu'est vraiment le Christ. Qui vraiment est le Christ? Dans l'Apocalypse, chapitre 1, nous voyons que le Christ est notre sauveur, est notre pasteur, il est notre créateur. Le Christ lui-même parle dans l'Apocalypse. Ce que vous voyez dans la Bible, même les titres, par exemple, l'Apocalypse de Jean, ce n'est pas vrai. Ce titre n'est pas dans la Bible. La Bible commence par la révélation, et la Bible dit que la révélation du Christ. C'est le Christ qui a parlé à Jean, et Jean a mis, donc, sur le papier ou bien sur le parchemin, les paroles du Christ. Voilà des vérités indispensables, sans lesquelles nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est la Bible et ce qu'est le Christ. Je répète, le Christ est notre Seigneur. Laissez-moi donc vous citer en quelques mots les paroles même du Christ, les paroles que le Christ a inspirées l'apôtre Jean à écrire. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Le Christ a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Comprenez-vous cela? Autrement dit, le commencement et la fin. Du reste, c'est ce que le Christ a dit. Il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Apocalypse, verset 8, chapitre 1. Il dit, « Celui qui est, présent, qui était, passé, et qui vient, le Tout-Puissant, futur. » Voyez-vous, autrement dit, sans le Christ, il n'y a ni commencement ni fin. Il est le commencement, il est la fin, et je répète, tout ça, ça existe en lui et par lui. Laissez-moi encore citer verset 18 de l'Apocalypse. Je répète, l'apôtre Jean a écrit ces mots, ces paroles, sous l'inspiration du Christ. Ce n'est pas Jean qui écrit ces choses. Il écrit si vous voulez, mais c'est le Christ qui a dicté ces paroles. Notez-le. Encore une fois, l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Le Christ a dit, je suis le premier. Alors, le premier. Autrement dit, vous ne pouvez rien avoir avant le Christ, car s'il y avait quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre avant le Christ, c'est cette autre chose ou cette autre personne qui serait le premier. Autrement dit, il n'y a pas de commencement. Dès que vous dites quelque chose, non, il y a encore le premier. Voilà pourquoi le Christ dit, je suis le premier et le dernier. La même chose. On ne peut pas ajouter quelque chose après le dernier. Voyez-vous, ça prouve la façon de s'exprimer du Christ. Il a dit, il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Ensuite, le Christ a dit, j'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, c'est-à-dire à tout jamais. Je tiens les clés de la mort du séjour des morts. Ce sont des explications que le Christ a données à l'apôtre Jean pour prouver que le Christ est le Créateur. Et voyez-vous, mes frères et mes sœurs, lorsque nous parlons du temps, pour nous le temps c'est quelque chose qui nous dépasse. En réalité, le temps est une création. Et oui, c'est Dieu qui a créé le temps. Le temps dépend des astres, de la lune, du soleil, etc. Le fait est que le temps même est une création. Pour nous, le temps est tout parce que nous réglons tout par le temps. Tandis que pour Dieu, pour le Christ, le temps est une existence permanente. C'est une éternité, si vous voulez. Voilà pourquoi je répète. Lorsque le Christ a dit, je suis le premier, autrement dit, il n'y a pas quelque chose avant le Christ. Et le dernier, il n'y aura jamais quelque chose après lui. Donc, c'est ce qu'on appelle éternité. Ensuite, le Christ dit au verset 18 toujours, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La mort, c'est quoi? La mort, c'est l'anéantissement de notre corps physique. Mais c'est Dieu qui nous a donné ce corps. Dieu nous a donné la vie et le corps que nous avons, afin que cette vie physique, pour le moment, puisse un jour être transformée en une vie spirituelle éternelle. Voilà pourquoi le Christ a dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Le Christ est notre Créateur. Il n'a ni fin ni commencement. Il est le premier dans tout ce qui existe et qui n'existera jamais. Alors, voyez du reste comment ceci s'explique dans Ésaïe chapitre 44. Maintenant, c'est dans l'Ancien Testament. Et je répète, pour nous autres dans l'Église, il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et il n'y a pas de différence, certainement, entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Mais pour le monde, d'une façon générale, pour les prétendus chrétiens, il y aurait deux testaments. Il y aurait deux dieux. Il y aurait deux façons de donner des commandements. Je répète, la base même de la vraie création, la base même de la vraie conversion, c'est de savoir que le Christ et le Dieu le Père sont unis par le Saint-Esprit et que Elohim, c'est-à-dire la famille divine, cette famille divine que nous a créée, un jour, nous-mêmes, nous ferons partie de cette famille. Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 7. Voyez-vous, lisez ces versets bibliques avec tout ce que je viens de vous dire. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est dans la Bible. Ainsi parle, Ésaïe 44, versets 6 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Le mot éternel même, c'est intéressant parce que éternel comprend tout, le passé, le présent, le futur. Et il n'y a ni quelque chose avant le passé, et ni quelque chose après le futur. Donc, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, car le Christ a dirigé les Israélites, son rédempteur. Nous sommes Israélites de cœur lorsque nous nous repentons de nos péchés, et le Christ devient notre rédempteur. L'Éternel des armées, oui, il lutte contre tout ce qui est mal ou mauvais et il nous aide à pouvoir supporter tout ce qui est tentation, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malheur, tout ce que vous voulez. Il est le Dieu des armées et il dit « Je suis », c'est le Christ qui parle, « Je suis le premier et je suis le dernier ». C'est encore là, je répète, l'un des titres du Christ. Le premier et le dernier. Or, moi, dit-il, il n'y a point de Dieu. Et direz-vous, et Dieu le Père. Il ne parle pas ici du Dieu le Père, parce que Dieu le Père et lui sont un. Ils sont un par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, hors cette existence divine, il n'y a pas de Dieu. Verset 7. Qui a, dit-il, c'est le Christ qui parle maintenant, qui a, dit-il, comme moi, fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Non, personne ne peut vraiment mettre au défi le Christ. Le Christ sait tout, peut tout. Et le Christ nous a révélé et nous révèle encore l'avenir. Il dit, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, il a fondé le peuple ancien, il a fondé chacun de nous, il a fondé la création tout entière. Il dit, j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Personne, hors le Christ, ne peut vraiment prédire l'avenir. Personne ne sait ce qui va se passer. Le Christ le sait. Dieu le Père le sait. L'Esprit Saint nous guide à comprendre ces vérités et à vraiment marcher dans cette compréhension. Voyez-vous, le Christ ne nous cache pas la vérité. Le Christ ne nous a pas caché l'avenir. Dans la Bible, il révèle l'avenir. Dans la Bible, il révèle les événements qui vont se passer et aussi en même temps, il nous montre la façon dont nous pouvions nous-mêmes nous comporter pour éviter les malheurs. Regardez, je vous prie, autour de vous. Regardez ces souffrances. Alors que je vous parle, il y a des guerres et des bruits de guerre. Alors que je vous parle, il y a des inondations, il y a des ouragans. Alors que je vous parle, les gens se tuent dans beaucoup de pays. Étrange, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que j'étais encore en France, Churchill disait « Il n'y aura pas de guerre avant 50 ans. Il n'y aura pas de guerre avant 50 ans. » Et pourtant, plusieurs dizaines d'années plus tard, nous avons eu déjà une cinquantaine de guerres. Aujourd'hui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons, je pense, plus de 200 guerres, petites et grandes. Alors, voilà où nous en sommes. Donc, le Christ sait tout cela. Le Christ ne nous cache pas la vérité. Le Christ nous dit que si nous marchons dans la voie qu'il a tracée devant nous, si nous suivons le chemin, il est le chemin. Si nous sommes dans la lumière, il est la lumière. Si nous sommes les brebis, il est le berger. Alors, notre avenir sera fantastique. Notre avenir sera d'être membre dans la famille divine en tant que les enfants spirituels, éternels de l'éternel Dieu. Revenons à la Bible. Ésaïe chapitre 48, donc le même chapitre, j'ai cité Ésaïe 44. Allons maintenant à Ésaïe 48, versets 11 à 13. Regardez voir encore la force de ces paroles. Il dit, c'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je vais agir. Cela signifie quoi? Dieu nous aime. Le Christ nous a tellement aimés qu'il est venu donner sa vie. Il a même risqué sa vie éternelle pour vous et pour moi. Donc, voilà pourquoi il dit, c'est pour l'amour de moi, dit-il, que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Les hommes, l'humanité d'une façon générale, profanent le nom du Christ. Mais nous qui sommes dans l'Église, nous devons faire attention à cela. Ne jamais prononcer le nom du Christ en vain, mais le prononcer avec respect, avec amour, avec reconnaissance. Et le Christ dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Non. Seulement, voyez-vous, si nous comprenons cela, un jour nous partageons cette gloire avec le Christ après la résurrection des morts. Ensuite, le Christ parle en ce qui concerne le peuple qu'il a appelé Israël. Écoute-moi, dit-il, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Le Christ a appelé les fils de Jacob d'Israël afin d'en faire son peuple. Ce peuple n'a pas obéi aux lois divines. Alors que le Christ a tout fait pour conduire ce peuple hors d'Égypte, ce peuple a pris Égypte avec eux quand ils sont sortis d'Égypte. Il dit, c'est moi, dit-il, encore une fois, verset 12, c'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Voyez-vous, combien de fois faut-il qu'il répète cette vérité afin que nous autres humains, nous puissions comprendre et agir en conséquence? L'un des titres du Christ, je répète, c'est le premier et le dernier. Comme le titre de berger, comme le titre de chemin, de porte, de lumière. Ensuite, je continue. Ma main a fondé la terre. Voyez-vous, Dieu ne ment pas, verset 13. Il dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Voyez-vous, vous et moi, nous n'avons aucune puissance, aucun pouvoir sur la nature. Mais le Christ peut tout faire. Il peut arrêter les vents, arrêter les ouragans, si vous voulez. Il peut tout arrêter. Ou bien, il peut faire de sorte que ces choses arrivent. Voilà pourquoi il dit, je les appelle. Et aussitôt, il se présente. Comme je vous ai souvent dit dans mes sermons, et je répète encore une fois aujourd'hui, lorsque vous lisez la Bible, ou bien lorsque vous m'entendez citer des versets, allez un peu plus loin. lisez ce qui est avant ces versets que je cite, après les versets que je cite. Autrement dit, la Bible ne se contredit pas. Ne vous contentez pas lorsque vous m'entendez citer un verset quelconque. Plus tard, si vous avez le temps, si vous avez l'occasion, prenez le chapitre entier. Autrement dit, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et lorsque vous lisez le commencement et la fin d'une révélation, alors là, vous comprendrez beaucoup mieux le sujet dont je vous parle. C'est une précaution que nous devons tous prendre. Lorsque vous lisez la Bible, je répète, ne cherchez pas de contradiction. Et n'écoutez personne qui vous cite un verset quelconque sans auparavant lire avant ce verset ce qui est écrit, et après ce verset ce qui est écrit, et ensuite sans vérifier dans d'autres passages les choses qui se rapportent au même sujet. Ce faisant, voyez-vous, vous avez la garantie que ce que vous croyez, ce que vous entendez, c'est la vérité. Je répète et je répéterai, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Écoutez, j'ai fait beaucoup de conférences publiques lors de mon ministère. J'ai fait des conférences publiques en France, dans plusieurs grandes villes. Et j'ai mis les gens en défi. J'ai dit, écoutez, montrez-moi un passage biblique qui contredit un autre. Certes, on peut inventer, on peut tordre, je ne parle pas de cela. Personne n'a jamais pu relever ce défi. Parce que les contradictions que l'on trouve censément, ce sont des interprétations humaines. Si vous laissez la Bible s'interpréter elle-même, il n'y aura pas de contradiction. Voyez-vous, c'est ça que j'entends par lire la Bible, ou bien étudier la Bible, ou bien vivre de la Bible. Le Christ est le premier et le dernier. Le Christ est en même temps notre berger. Le Christ est en même temps notre sauveur. Ce mot sauveur dans la Bible apparaît plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est vraiment la signification de sauveur? Sauveur signifie quelqu'un qui vous sauve. Par exemple, vous voyez quelqu'un tomber dans une piscine, quelqu'un d'autre vient le sauver, donc celui-ci devient le sauveur. De la même façon que Christ nous voit tomber, il nous ramasse, pour ainsi dire, il nous fait sortir de la piscine, de l'eau, il est notre sauveur. Il est notre sauveur par le sacrifice de sa vie. Il est notre sauveur parce qu'il a donné sa vie pour nous. Lui qui avait tout, il a voulu verser son sang, humainement parlant, parce qu'il est devenu homme sur cette terre, étant homme et Dieu en même temps. Donc, étant homme, il sait ce que c'est que la souffrance. Il a donné sa vie et avec ce sacrifice-là, nous pouvons, nous, aller de l'avant, avoir la ferme assurance que le Christ, par son sang, par son sacrifice, a ouvert devant nous les portes pour arriver au but. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, prétendus chrétiens, n'aiment pas les commandements de Dieu, n'aiment pas les écrits de l'Ancien Testament. Ils veulent agir à leur tête, à leur guise. Voilà pourquoi on rejette le Dieu de l'Ancien Testament, qui est pourtant le même que celui du Nouveau Testament. Les gens ne veulent pas entendre parler des 10 commandements. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais dans les 10 commandements? Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais à aimer son prochain comme soi-même? Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais à honorer nos parents, à ne pas commettre d'adultère, à ne pas tuer, à ne pas mentir? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais dans tout cela? Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face de l'éternel Dieu? Ou bien de ne pas convoiter? Écoutez, la convoitise, c'est la racine même du péché. Et nous sommes tous tentés par la convoitise. Lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous faisons sa volonté, nous nous débarrassons des sentiments de convoitise. Donc le Christ est venu mourir pour nous. Il a été cloué Là encore, voyez-vous, les chrétiens, les prétendus chrétiens disent « Oh, les lois divines ont été crouées sur la croix ». Non, les lois divines n'ont pas été clouées sur la croix. C'est le Christ qui a été cloué sur la croix. Une fois que vous comprenez cela, vous saurez comment lire la Bible. Laissez-moi du reste vous citer ce que l'apôtre Paul a écrit à ce sujet. Et tâchez de comprendre maintenant, dans la lumière de ce que je vous dis, et je cite Galates, chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. Prenez en note. Le Christ nous a rachetés. Et vous comprenez ce que c'est que racheter? De la malédiction de la loi. Alors, la loi était-elle une malédiction? Non, la loi amène une malédiction, car si nous péchons, si nous transgressons la loi, une malédiction s'ensuit. Donc le Christ est venu racheter de cette malédiction. La seule façon d'acheter de cette malédiction, c'est de vous aider à respecter la loi afin que vous ne soyez pas transgresseur. Il dit, étant devenu malédiction, comment? Le Christ est devenu malédiction? Oui, parce qu'il a pris sur lui nos péchés. C'est ça qu'il entend. Pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu du bois. Et c'est lui, le Christ, qui a été pendu au bois. Ce ne sont pas les 10 commandements. Ce sont nos malédictions, si vous voulez. Le Christ est mort pour nous. Il a pris sur lui nos péchés. Il est devenu, pour ainsi dire, malédiction. Et en plus de cela, voyez-vous, il nous libère de cette malédiction. Ce qui a été, mes frères et mes sœurs, pendu sur la croix, ou bien, oui, sur la croix, ce sont nos péchés, les malédictions. Pas la loi. La loi, comme l'apôtre Paul a dit ailleurs, est bonne, est juste, est parfaite. La loi est sainte. Comment est-ce que vous pouvez anéantir une chose qui est sainte? Là encore, si les chrétiens, et vous tous peut-être, je ne sais pas, en tant que membre de l'Église, il se peut que vous ne compreniez pas tout ça très bien, tâchez de comprendre. Ce qui a été pendu sur la croix, bien, à la croix, ce qui a été pendu sur la croix, ce ne sont pas les commandements de Dieu, ce sont nos péchés, la malédiction qui s'ensuit. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, cette déclaration de Paul est toujours en vigueur. Laissez-moi vous citer encore Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49. Verset 7 à 8. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, d'avoir les titres qu'il a, à celui qu'on méprise, et les gens ont méprisé le Christ. Ils ont crucifié le Christ. Toutes sortes de mensonges ont été prononcés contre le Christ. Donc, on l'a méprisé, et qui est en horreur au peuple, à l'esclave, dit-il, des puissants, des rois, le verront et ils se lèveront un jour. Autrement dit, tous ceux qui ont vraiment persécuté le Christ, un jour le verront et devront s'en repentir. Des princes et se prosterneront, verset 7, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qu'il a choisi. Le Saint d'Israël, c'est le Christ. L'Éternel, c'est le Christ. Verset 8. Ésaïe 49, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce. » Ça veut dire quoi? Voyez-vous, le Christ est venu donner sa vie. C'est l'époque de cette grâce. Alors que nous vivons à cette époque-ci, au temps de cette grâce, dit-il, « Je t'exaucerai. » Aujourd'hui, certaines personnes, un petit groupe, est appelé par Dieu pour que cette vérité soit proclamée. Et ces gens-là ont ce devoir, cette tâche d'être membre en même temps de l'Église de Dieu. Mais un jour, le monde entier comprendra cela. Voilà pourquoi le Christ dit au temps de la grâce, je t'exaucerai au jour du salut. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, n'est pas le seul jour du salut. Autrement dit, aujourd'hui, le monde entier n'a pas été appelé à être sauvé. Non, pas du tout. Dieu veut que tous soient sauvés, comme déclare l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Mais le moment du salut, ce sera lorsque le Christ lui-même sera en charge des gouvernements de ce monde. Ce sera donc après le retour du Christ. Pour le moment, ce n'est pas cette époque pour tout le monde. C'est l'époque pour vous qui êtes membres de l'Église. Pour moi, nous devons vraiment faire de notre mieux afin d'obéir à Dieu, afin de le servir, afin de montrer aux gens la voie à suivre et afin de proclamer cette vérité que je proclame. Et Dieu dit, au moment du salut, je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés. C'est un grand chapitre, ceci, et je suis sûr que vous autres qui m'écoutez maintenant dans l'Église et qui êtes membres, vous comprenez ces vérités. Mais pour le monde, d'une façon générale, il faut que je répète et je répéterai, tous aujourd'hui ne sont pas appelés à être sauvés. Un jour, ils le seront. Ce sera après la résurrection des morts, après le retour du Christ. Pour le moment, l'Église du Christ est composée par ceux que Dieu appelle et qui sont appelés pour une mission spéciale. C'est pour proclamer l'Évangile, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle, et c'est pour, en même temps, secouer les gens afin que les gens se tournent vers Dieu et qu'ils obéissent à ses commandements et qu'ils fassent sa volonté. Voilà pourquoi, pour nous autres, c'est le moment ou jamais. Aujourd'hui, nous sommes responsables de cette connaissance car nous sommes seulement capables de comprendre, mais aussi nous devons être capables de mettre en pratique ce que nous savons. Commencez-vous à comprendre. Ésaïe 60. Voyez-vous, je parle maintenant de l'Ancien Testament. Je parle maintenant du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe était un prophète qui a proclamé ses vérités sous l'inspiration divine. Le prophète Ésaïe était sous le Christ. Le même Christ qui était dans le Nouveau Testament et qui est dans le Nouveau Testament. Ésaïe 60, verset 16. Tu suceras, dit-il, le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Une façon de s'exprimer. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur. Voilà encore un autre titre du Christ. Il est le dernier, il est le premier. Il est le Sauveur, notre Sauveur, ton Rédempteur. Voilà encore un autre titre, si vous voulez. Le puissant de Jacob. De Jacob parce que le Christ a appelé, dès le commencement, la famille de Jacob pour que cette famille soit, en principe, les premières à entendre la loi. Mais malheureusement, la famille de Jacob n'a pas été la première parce qu'elle n'a pas voulu vraiment suivre le Christ. Notez encore ce que le prophète Osée déclare dans son livre. Osée 13, verset 4. « Et moi, dit le Christ, et moi je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. » Peut-on être plus clair? Il n'y a pas de sauveur autre que le Christ. Il n'y a pas de Dieu autre que le Christ. Il n'y a pas de créateur autre que le Christ. Avez-vous jamais pris le temps, mes frères et mes sœurs, de lire la Bible de cette façon-là? Avez-vous jamais pris le temps de voir même comment le Christ est né? Aujourd'hui, beaucoup de gens célèbrent Noël. C'est quoi Noël? Beaucoup de gens célèbrent le dimanche des Pâques. C'est quoi le dimanche des Pâques? C'est quoi la naissance du Christ? Pouvez-vous montrer dans la Bible, me montrer à moi, ou à n'importe qui, quand le Christ est vraiment né? Est-il né en décembre? Vous serez surpris. Le moment de la naissance du Christ, à ce moment-là, les bergers paissaient leurs troupeaux. Lisez-moi si vous citez, par exemple, comment le Christ est né. Enfin, en partie du reste, Luc chapitre 1, versets 68 à 71. Ici, nous voyons que le Saint-Esprit parle à Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur, voilà encore votre sauveur, dans la maison de David, son serviteur. » Ils ne comprennent pas que le Christ est le Créateur. Il a toujours existé. Mais humainement parlant, le Christ est né de la famille de David. Ensuite, David était son serviteur. Verset 70, Luc 1. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints, des saints prophètes, des temps anciens, un sauveur qui nous a délivrés. Je répète, voilà encore un des titres du Christ. Il est le pasteur, il est le berger, il est le sauveur. Un sauveur qui nous a délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ce sont des paroles fortes. Mais nous, êtres humains faibles que nous sommes, nous n'avons pas la foi nécessaire pour y croire et pour vivre en conséquence. Moi, je suis du groupe. Je suis faible. Je ne suis pas aussi fort que je voulais être. Avoir cette foi absolue. Je tâche. Je fais de mon mieux. Mais nous devons tous comprendre cela et faire de notre mieux. Nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, physiquement parlant. Mais un jour, nous serons des enfants de Dieu, spirituellement parlant. En l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Et lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous nous mettons à suivre la volonté de Dieu, dans ce cas-là, nous nous avançons, nous marchons vers la vie éternelle. Et ça sera le cas lors de la résurrection des morts. Je dis cela dans tous mes sermons presque, mais il faut que je répète, c'est une bonne nouvelle, c'est la meilleure nouvelle que vous puissiez entendre. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle du retour du Christ. Le Christ, je répète, est notre pasteur. C'est notre berger. C'est quoi un pasteur? Pas un pasteur quelconque. Le Christ est le bon berger. Le bon berger conduit le troupeau dans la bonne voie. Le Christ est notre pasteur parce qu'il nous conduit dans la bonne voie. Il est notre lumière. Et le Christ, en l'occurrence, nous montre la voie pour arriver au but. Les brebis suivent le Christ. Nous sommes des brebis, nous devons suivre le Christ, car il est notre pasteur. Ce qui est regrettable, je répète, aujourd'hui, il y a même au sein du christianisme des centaines de religions, autrement dit, sans seulement des centaines de brebis différentes, qui suivent des bergers différents. Vous ne pouvez pas suivre des bergers différents alors que le Christ est le seul berger, le seul bon berger. Voilà pourquoi on ne peut pas être chrétien, ouvertement parlant, franchement parlant, sans obéir au Christ, sans qu'il soit, lui, notre sauveur, notre pasteur, notre créateur, le premier et le dernier, et sans qu'il soit, lui, notre lumière. Voyez-vous, tout cela, c'est facile à comprendre une fois que vous ne détournez pas les versets bibliques et vous ne les sortez pas de leur contexte. Le Christ est notre Seigneur. Le Christ est notre Sauveur. Le Christ est notre Pasteur. L'apôtre Paul, qui était un apôtre qui a vraiment compris la volonté du Christ, un apôtre qui a tout abandonné lui-même afin de pouvoir suivre le chemin. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12. Il parle maintenant du Christ et de l'Église. Il dit, « Et le Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ce sont des titres dans le ministère. Pourquoi? Verset 2. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà. Qui sont les saints? Là encore, voyez-vous, lorsque vous parlez en ce bas monde, les saints sont ceux qui sont morts et dont vous voyez les photos, si vous voulez, dans les tableaux, dans les églises, non. Bibliquement parlant, les saints sont ceux qui sont appelés et qui ont reçu le Saint-Esprit et qui continuent dans cette voie jusqu'à leur mort. Aujourd'hui, nous sommes des saints en tant que membres de l'Église et nous devons continuer jusqu'à la fin afin d'être ressuscités lors de la résurrection des morts en tant qu'êtres éternels. Donc, ça, c'est la définition du saint. Alors, il dit, nous avons donc dans l'Église des titres pareils pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps. Voyez-vous, du corps du Christ. C'est ça. Notre devoir, mon devoir en tant que ministre, c'est de vous aider à comprendre cela et de vous aider à comprendre que nous sommes tous, en tant que membres de l'Église, des saints si nous marchons dans cette voie jusqu'à la fin. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons, c'est toujours Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'unité de foi. Il y a tellement de divisions au sein du christianisme et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Autrement dit, le Christ est venu en tant qu'homme. Ensuite, il est ressuscité et nous devons même nous-mêmes suivre ce même exemple. Parvenir à la stature parfaite du Christ. Afin que, dit-il, nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans des moyens de séduction. Satan est toujours là, Satan voudrait que nous puissions, nous, être séduits par le mensonge. Vous serez facilement séduits si vous vous détournez du bon berger, si vous vous détournez du bon chemin, si vous fermez les yeux devant la lumière. Mais dit-il, verset 15, professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. Autrement dit, on ne peut pas être plus clair. Notre but, je répète, c'est de suivre le chemin que le Christ a tracé devant nous et de nous soumettre à sa volonté. Ce faisant, nous arrivons à la perfection, à cette stature, je dirais, que Dieu nous recommande dans la Bible. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau. Laissez-moi encore vous citer Psaume 23, verset 1 à 6, Cantique de David. L'Éternel, dit-il, est mon berger, voyez-vous, c'est toujours la même chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige dans des eaux paisibles. Lisez tout cela, lisez le reste. Vous voyez tout au long de ce chapitre, psaume 23, ce qu'est le Christ, ce qui est et ce qu'il fait. Laissez-moi vous citer encore Ézéchiel, un autre prophète de Dieu. Ézéchiel 34, versets 11 à 12. « Car ainsi parle le Seigneur, verset 11, l'Éternel. » L'Éternel est un autre titre du Christ. « Voici, dit-il, j'aurai soin moi-même de mes brebis. » Nous sommes ces brebis. Il est notre berger. « Et j'en ferai la revue. » « Comme un pasteur, dit-il, inspecte son troupeau. » Quand il est au milieu de ses brebis, ainsi dit-il, je ferai la revue de mes brebis. C'est le Christ qui parle. Il parle de nous tous qui sommes appelés. Et je les recueillerai de tous les lieux. Ils ont été dispersés au jour des nuages et de l'obscurité. Nous sommes aujourd'hui dispersés. Le jour viendra où le Christ appellera les siens. Et lorsque lui-même sera sur cette terre, il appellera tout le monde. Ça sera le temps, l'époque du salut. Je saute, Ézéchiel 34, versets 30 à 31. Et elles, les brebis, sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, Je suis avec elles, avec les brebis. Elles sont mon peuple, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Maison d'Israël dans la Bible signifie ou bien est synonyme de ceux que Dieu appelle et qui sont, qui deviennent son peuple. Parce que ces gens-là obéissent à Dieu, au commandement de Dieu, ce faisant, ils deviennent maison d'Israël. Verset 31, « Vous, mes brebis, dit-il, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit l'Éternel. » Quand vous constatez, les mots berger, pasteur sont synonymes. Quand vous constatez les mots éternel et aussi le premier et le dernier sont des synonymes. Un ministre de Dieu, si nous sommes vraiment ministres de Dieu, nous devons en toute chose faire ce que le Christ nous commande de faire. En toute chose, suivre le Christ. Veiller à ce que le troupeau reste sur le bon pâturage. En tant que berger, nous autres pasteurs, ou si vous voulez ministres, nous devons conduire le troupeau dans la bonne bergerie. Et maintenant, laissez-moi vous citer encore, si j'ai le temps, quelques paroles de l'apôtre Pierre. Pierre était un homme très fort, très converti. Il a donné sa vie pour le Christ et Pierre n'a pas hésité en toutes occasions de montrer sa foi en Christ et à nous dire comment lui-même décrit le sacrifice du Christ. 1 Pierre chapitre 5, et je pense seulement en partie, « Paissez le troupeau, verset 2, paissez le troupeau de Dieu, dit-il, qui est sous votre garde. » Il parle aux bergers. Il parle à ceux qui se nomment aujourd'hui pasteurs. Un peu plus loin, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il dit, « Lui, le Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, voyez-vous, c'est encore les péchés qui sont sur le bois et non pas les 10 commandements. Nous vivions par la justice, pour la justice, par les meurtrissures duquel, c'est-à-dire du Christ, nous avons été guéris. Et oui, je vous parlerai un jour plus tard de la guérison. Nous sommes guéris par le meurtrissure du Christ. Mais donc, le Christ est notre sauveur, est notre pasteur, est celui qui nous guérit. Tous ces versets bibliques, voyez-vous, disent la même chose. Le Christ, notre lumière, notre chemin, notre berger, je ne sais pas où m'arrêter, est seul capable de nous protéger contre les attaques de Satan. N'ayez pas peur de Satan. Satan, certes, a reçu la liberté, si vous voulez, pour nous tenter. Dieu est au courant. Dieu a donné à Satan cette puissance, ce pouvoir, mais Dieu nous donne en même temps la force de lutter contre Satan. Satan ne peut absolument rien faire contre le bon berger. Il ne peut absolument rien faire contre la lumière qui est le Christ. Il ne peut absolument rien faire contre la vérité. C'est pourquoi chaque fois que vous priez, chaque fois que nous prions au nom du Christ. Voyez-vous, le nom du Christ est la puissance même. Si vous demandez quelque chose, comme le Christ a dit en son nom, il le fera. Mes frères et mes sœurs, soyez-en reconnaissants à Dieu. Ayez toujours en tête que le Christ est là et qu'il vous protège. Que le Christ est là, qu'il veut que vous puissiez arriver au but. Que le Christ est là afin que vous puissiez arriver au but final sans être dérangé par Satan le diable. Nous avons, certes, je répète, des difficultés tous. Nous avons des hauts et des bas. Nous avons, parfois, nous faisons face à des tragédies. Mais rappelez-vous une chose. Par ces souffrances, par cette façon de croître dans la vérité, nous avançons vers le but final. Et je cite maintenant, pour terminer, Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques, le frère du Christ, écrit, « Mes frères, dit-il, regardez comme un sujet de joie. » Regardez-moi, un sujet de joie. De joie complète. de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Est-ce le cas pour vous? Est-ce le cas pour moi? Lorsque nous sommes exposés à diverses épreuves, avons-nous cette joie complète dans notre cœur? Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voyez-vous? Il vous donne la réponse. Mais il faut que, dit-il, la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, c'est-à-dire arrivé au but, et accompli sans faillir en rien. Mes frères et mes sœurs, j'ai fait ces trois sermons sur le Christ. Révisez-les. Soyez reconnaissants au Christ qui nous révèle dans la Bible sa vraie identité, qui nous dit ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous et ce qu'il fera pour nous. Que chaque jour, quelles que soient les épreuves auxquelles vous vous fassez, que chaque jour soit pour vous un jour de reconnaissance.